14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
La voie est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Stéphane Bern qui vient de publier son 10e tome de Secrets d'Histoire chez Albin Michel et son magazine Mission Patrimoine. C'était l'occasion de visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
On est à l'étroit, hein. On est un peu coincé
voilà,
par les
livres. C'est ce que j'allais dire, mais à la fois on est à l'étroit dans votre petit bureau,
oui.
Mais on est en même temps au paradis, parce qu'il y a quand même des livres. Alors non seulement sur tous les murs, ils sont tapissés de livres, mais par terre, il y a des piles de livres. Je ne sais pas, à la louche, il y a une trentaine de grandes piles de livres qui arrivent à mi-hauteur d'homme.
Oui. C'est un peu ici, les gens n'osent pas entrer dans mon bureau, justement. C'est un peu une forteresse. Il faut montrer patte blanche pour entrer. Je me cache derrière mes livres.
Oui, et à la fois, il est juste dans l'entrée, il y a le hall, et il y a une porte qui donne sur votre bureau. Et effectivement, je vous ai vu, vous étiez dans votre bureau. J'ai pas osé rentrer tout de suite.
Oui.
J'ai attendu le feu vert.
Ça me protège.
Non, mais comment vous expliquez ça ?
J'explique ça, c'est qu'au fond, j'ai un rapport très particulier avec les livres. Et les livres me protègent, en fait, naturellement. Ici, j'ai quelques maisons, j'en ai pas énormément, mais j'ai beaucoup de bibliothèques. Et je ne sais pas acheter un livre, donc je garde tout. Donc d'abord, je les empile, ensuite je les lis, j'en mets sur la table de chevet, un peu partout près de mon lit. Et puis une fois qu'ils sont lus, ils sont rangés dans la bibliothèque. Puis quand ça déborde, alors on fait des tris, on sort les livres. Et mon rêve, j'ai des rêves secrets, c'est de ranger la bibliothèque. Je ne sais pas si ça vous arrive de rêver,
pendant
d'imaginer.
Pendant le confinement,
oui. Oui, et puis en fait, je l'ai fait, puisque j'étais confiné à la campagne, et là-bas où j'ai de grandes bibliothèques, j'ai rangé les livres. Mais là, au fond, vous savez, ici, sont concentrés que des livres d'histoire, uniquement des livres d'histoire, pratiquement, ou des livres, des documents sur l'histoire des monarchies européennes, qui a fait quand même ma réputation pendant un temps.
Juste pour décrire un tout petit peu, c'est une pièce carrée d'environ 15 mètres carrés,
oui.
Et qui est donc, il y a un grand meuble qui fait tout le tour, un grand meuble bleu, d'un très beau bleu,
oui.
Et puis il y a au fond un bureau, un petit bureau.
Oui.
C'est quoi, c'est, je veux dire,
un petit bureau
Empire.
Louis XVI. Non, c'est Louis XVI,
d'accord.
Un petit bureau Louis XVI d'époque, pas très grand.
C'est là que vous écrivez ?
C'est là que j'écris, mais lui-même, vous voyez, mon espace d'écriture recule avec les papiers, les enveloppes.
Je vois pas d'ordinateur.
Si, il est là.
Ah oui, d'accord.
Avec les ordinateurs,
il était caché.
Les ordinateurs portables, maintenant, ils sont de plus en plus réduits. Et puis, c'est là que j'écris, c'est là que je fais tout, à peu près.
Il y a plein de souvenirs aussi, j'ai l'impression.
Il y a plein de souvenirs, il y a des photos, quelques photos dédicacées.
On va en venir au livre avec une porte un peu particulière, parce que juste à côté de ces photos-là, vous avez une pièce d'époque, j'imagine.
Oui, c'est doublement touchant. C'est marqué, c'est un panneau qui était sur beaucoup de maisons, fermé pour cause de deuil national, obsèques de Victor Hugo.
Ouais.
Il se trouve que Victor Hugo a vécu ici. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans son livre « Choses vues », qu'il a écrit d'ailleurs en partie dans cette maison.
Je signale qu'on ne sommes pas Place des Vosges, hein, parce qu'il a aussi
Place
des Vosges.
Il a eu plein de maisons,
voilà.
Mais quand il est rentré d'exil, c'est d'abord installé là quelques temps, puis ensuite il est parti. Et comme vous le savez, il est allé vivre avenue Victor Hugo.
En son avenue.
En son avenue, ce qui est merveilleux.
C'est chic.
Oui.
La rue Stéphane Bern, vous avez déjà pensé,
non ? Non, il vaut mieux pas y penser. Ça voudrait dire que je ne suis plus là.
Il n'y a même pas des écoles et trucs comme ça ?
Même pas encore, non, ni des...
Ça va venir.
Non, rien n'est peut-être... Des salons de coiffure.
On parlait de Victor Hugo, mais je crois que malheureusement ici il n'y a pas de romans.
Si ? Il y a très peu de romans. En fait, dès que les romans, je les lis quand je suis en vacances. Donc ils sont tous ou en Grèce ou à la campagne dans le Perche, où là j'ai beaucoup, par exemple, j'ai tout je sais pas, ça peut être Jean d'Ormesson, toute l'œuvre de Jean d'Ormesson dédicacée.
Vous en lisez ?
Ah oui, je lis beaucoup de romans. Il y a quelques romans, il y a les derniers romans qui doivent être par là. Alors bon, faut pousser des piles, vous voyez. Bon, en même temps, il y a il y a le Ken Follett, par exemple, qui vient d'arriver.
Le dernier Franck Ferrand.
Voilà, j'ai l'un des derniers romans, Camille Pascal, La Chambre des Dupes. Alors, de
mais ça, ce sont des romans de la rentrée, quoi.
Des romans de la rentrée qu'on m'envoie, que je lis et qu'ensuite j'expédie en Grèce.
Mais quels sont vos romans cultes? Qu'est-ce que vous avez là-bas, à la campagne? Vraiment les trois romans qui sont au centre de la bibliothèque. Vous savez où ils sont si vous les cherchez pour en relire un passage et tout ça.
J'ai une passion pour Jean d'Ormesson. Donc j'ai toute la collection, tous les romans de Jean d'Ormesson. Ça paraît bizarre, mais cet homme arrivait à me toucher. D'abord, je le voyais beaucoup.
Ça change tout de connaître l'auteur aussi, quand même.
Ça change beaucoup de choses, mais je lisais avant. J'ai commencé sans le connaître. Je lisais au plaisir de Dieu. Et donc, je voyais que mon univers, en tout cas fantasmé ou fantasmagorique, correspondait à son véritable univers. Donc j'ai pris l'habitude de le lire.
On parlait de romans et je vois un ouvrage sur Oscar Wilde.
Oui.
Et quelque chose me dit que vous avez une fascination pour lui.
J'adore
comme
Oscar
votre
Wilde.
Grand ami Franck Ferrand.
Exactement. Oui.
Vous faisiez partie de son association des amis,
bien
là
sûr,
oui, d'accord.
J'étais ou vice-président, ou je ne sais pas ce que j'étais, mais il m'a écollé là, Franck. De toute façon, Franck est mon meilleur ami, donc je le défendrai. Je le suivrai où il veut, mais...
Ça nous fait un point commun, j'adore Oscar Wilde aussi.
Oscar Wilde,
qu'est-ce qui vous fascine chez lui?
Ben, écoutez, voilà le type, j'ai raconté ça sur scène dans Vous n'aurez pas le dernier mot, la mort d'Oscar Wilde.
Arrêtez, je vais pleurer.
Il demande une coupe de champagne et il dit, décidément, je vis vraiment au-dessus de mes moyens. Et je trouve ça merveilleux. Il meurt en disant, je ne sais pas si c'est ce papier peint qui disparaît ou moi. Il commence à voir flou. Je trouve, voilà un homme, il faut résister à tout, sauf à la tentation, il faut faire ses aphorismes, ses pensées. C'est une façon de regarder la vie. Les gens disent qu'il est cynique, je ne crois pas. Je crois qu'il a au contraire une façon de regarder la vie avec beaucoup de distance et une sorte de désespoir joyeux. Et ce désespoir joyeux, c'est le mien et c'est celui de Jean d'Ormesson hein, aussi.
Je vois quelques Pléiades là dans un coin. Je regarde
oui,
juste.
Il y en a pas mal. Non,
j'ai essayé de ne pas faire écrouler la colline de livres.
On peut pousser les.
Ah oui, il y a Conrad, il y a Racine.
Oui, et puis là, regardez.
Il y a Monterland.
Non, il y en a encore
oui.
Pas mal là.
Jean d'Ormesson,
Georges Duby, les œuvres
formidables. Ah, Oscar Wilde.
Il y a du Oscar Wilde.
Ah, vous avez plusieurs exemplaires de Conrad.
Oui. J'ai Jean Cocteau, voilà. Albert Camus, évidemment.
Ah, Stéphane Zweig. Ça, c'est intéressant parce que Stéphane Zweig, c'est une manière de raconter l'histoire avec un style de romancier.
Quelque part, j'ai tout Stéphane Zweig pour une raison simple. D'abord, parce que je me reconnais beaucoup en lui. Un peu déraciné, mes origines familiales, l'Autriche. Je vais beaucoup à Vienne. Je suis allé voir sa maison à Petropolis. Je suis allé voir là où il a fini sa vie, là où c'est.
Ça vaut le coup.
Suicidé. Non, la maison n'a aucun intérêt, il faut être honnête. Mais tout de même, il y a.
Vous aimez les lieux d'écrivains comme
j'adore
ça.
J'adore les maisons d'écrivains. Oui. J'étais chez Émile Zola à Médan pour un tournage la semaine dernière. J'adore chez Colette, la maison de George Sand aussi. Non, ce qui est intéressant à Petropolis, quand on va chez Stefan Zweig, c'est de penser qu'il y a un jeune coopérant autrichien, et je crois qu'ils ont 5 coopérants dans le monde, dont un qui est chargé de s'occuper de la maison de Stefan Zweig. C'est dire qu'il imprègne encore la culture autrichienne. Et au-delà, je trouve que ce monde d'hier, moi j'ai... Peut-être c'est ce qui me rend aussi comme un garçon très nostalgique, c'est ce monde d'hier de Stefan Zweig. J'ai connu un monde qui n'existe plus, que plus personne ne connaîtra. Un monde qui s'est écroulé parce que la consommation, les téléphones portables, la modernité, tout ça a fait voler en éclats ce monde d'hier que moi je chérissais.
Ah, parce que j'allais dire, malgré les apparences, je crois que vous êtes bien dans votre époque. Et j'allais vous demander ensuite quelle est l'époque où vous auriez aimé vraiment vivre.
J'adore vivre dans cette époque, je me sens vraiment à l'aise dans cette époque. La seule chose, c'est que mon imaginaire me porte plus vers le 19e siècle.
Plutôt 19e ?
Oui, oui. Bah oui, parce que d'abord, dans tous les pays, c'est à la fois l'Allemagne avant qu'elle ne fût unifiée, En tout cas telle qu'elle était dans la Confédération du Rhin de Napoléon, mais pas l'Empire de Bismarck. Ensuite, l'émergence des nationalités avec la Grèce qui secoue le joug ottoman. On va célébrer là en 2021 le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce. Je trouve ça formidable, moi qui ai une maison depuis 22 ans, je crois, en Grèce. J'adore les Grecs pour ça aussi. Ils ont une forme comme ça d'indépendance. Non, j'adore le 19e.
Vous n'auriez pas aimé vivre dans l'Ancien Régime ?
Oh, pas du tout. Non, d'abord, parce que si j'avais vécu dans l'Ancien Régime, j'aurais pas été un petit marquis poudré. J'aurais été un palefrenier qui aurait mangé les légumes par la racine. Et je peux vous dire, vu mes origines familiales, il y avait peu de chances que je sois du bon côté de la barre. Il ne faut jamais oublier ça. Vous savez, tous ces gens qui sont nostalgiques d'un temps ancien, ils imaginent des robes à paniers, des perruques, des trucs. Mais on a envie d'en dire.
0,5%.
Oui, voilà. Moi, vu mes origines, mais j'aurais même pas pu entrer à Versailles, vous voyez. Donc, il faut pas oublier.
Ah, vous seriez débrouillé.
Non, je me serais peut-être débrouillé, je ne sais pas, mais je sais d'où je viens. J'ai pas honte de mes origines, des origines très modestes. Et en revanche, on s'est élevé par la culture. Et je n'oublie jamais une chose. C'est pour ça que j'ai le respect pour les livres. C'est que on n'avait pas de télévision quand dans mon enfance. C'est mon frère et moi qui avions offert la télévision à nos parents pour leurs 25 ans de mariage, c'est vous dire. Mais on n'avait que des livres. Donc ma seule façon d'échapper au réel, c'était de lire. Et je pense toujours à cette phrase de Bernard Pivot qui m'a fasciné. Il m'a dit « On n'a qu'une vie, mais avec les livres, on peut en avoir des milliers. »
Merci beaucoup Stéphane Bern pour cette visite.
Non, mais merci
on
à vous.
On va rester quelques heures encore, mais on ne va pas vous déranger plus longtemps.
Pour votre patience surtout, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi faire.
Merci Stéphane.
Merci à toi.